avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
C'est un drame terrible et qui n'est pas un cas isolé. En quelques jours, le Covid-19 a emporté 31 pensionnaires de l'EHPAD de Mougins dans les Alpes-Maritimes. Un tiers des résidents, le groupe Corian qui gère l'établissement et l'État se renvoient la responsabilité. On sait maintenant que 19 des 50 employés étaient eux-mêmes contaminés. Frédéric Michel, on vous retrouve dans la région. Aujourd'hui, des tests de dépistage ont enfin pu être réalisés sur l'ensemble des résidents.
Effectivement, et les résultats de ces tests devraient être connus dans la soirée. Hein. 19 des 50 soignants ont d'ores et déjà été testés positifs. Cela fait plusieurs semaines que le maire de Mougins, également médecin généraliste, réclamait avec insistance ce dépistage pour l'ensemble du personnel et des 109 pensionnaires. 31 résidents sont depuis décédés du virus. Vous l'avez dit, c'est un tiers des pensionnaires. On peut parler de véritable hécatombe. Alors à qui la faute? Le maire de Mougins n'hésite plus à pointer le doigt le groupe Corian qui gère la maison de retraite La Riviera. Manque de matériel, locaux inadaptés, confinement aléatoire en l'absence de dépistage. Les griefs sont partagés par certaines familles de pensionnaires qui dénoncent également des mensonges sur l'état de santé de leurs proches et la présence du Covid-19 dans l'établissement. Ils n'ont pas été tenus informés. Une plainte a été déposée, une plainte contre X, la seule pour l'instant, mais d'autres sont en cours de constitution. Le groupe Corian se défend en expliquant que l'aide est arrivée trop tard. Il met en cause l'État et ses services. L'ARS, que j'ai joint au téléphone, préfère pour le moment ne pas répondre. Tous les jours, nous avons crié au secours et rien ne s'est fait, indique dans une interview à Nice Matin le directeur général France du groupe Corian, qui dit comprendre la douleur et le questionnement des familles.
Le récit de Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 sur la Côte d'Azur.
Et en tout, 2189 morts ont été recensés dans les EHPAD, soit un quart des décès en France. On va y revenir avec mon invité à 18h20, Philippe Juvin, médecin chef des urgences à Paris, à l'hôpital Pompidou.
Faut-il que chacun de nous porte un masque pour toute sortie, y compris un masque en tissu? La question est désormais posée. C'est obligatoire, par exemple, dans le nord de l'Italie, en Lombardie. Et ce sera bientôt le cas à Nice, première ville à prendre cette décision.
Et son maire Christian Estrosi est en ligne avec nous. Bonsoir Christian Estrosi.
Bonsoir.
Alors quand précisément le port du masque sera-t-il obligatoire?
Eh bien, nous avons beaucoup travaillé ces dernières semaines pour pouvoir d'abord abonder le personnel hospitalier qui n'était pas doté par les services de l'État comme il aurait dû l'être. Et que pour moi, les premiers à protéger, ce sont bien sûr ceux qui sont au contact, au risque, qui sont des gens absolument admirables. Et puis, en travaillant toutes les niches, toutes les filières commerciales possibles en Europe, en Asie, nous avons réussi petit à petit à alimenter un drive mask au sein de la ville de Nice pour pouvoir catégorie après catégorie, en définissant des priorités, fournir en masque à la fois chirurgicaux pour certains, FFP2 pour d'autres. Je pense aux médecins généralistes, je pense à la médecine de ville, je pense aux infirmiers, aux brancardiers, aux ambulanciers, aux kinés.
Et là, Christian Estrosi, vous allez en fournir à tous les habitants? C'est de ça dont
aujourd'hui,
on parle aujourd'hui?
Aujourd'hui, nous sommes passés, au moment où je vous parle, à la distribution pour les commerçants, qui eux aussi, je ne parle pas de la grande distribution qui elle-même s'est structurée, mais je parle des commerçants, même si j'accompagne aussi la grande distribution. Et depuis plusieurs jours, je me bats parce que nous savons qu'il faut aussi protéger individuellement chacun de nos concitoyens. Et donc, j'ai réussi à trouver une filière qui nous fournisse en masques, en tissu agréés, bien sûr, par les autorités sanitaires de notre pays, lavables et capables d'être réutilisables pendant un mois d'affilée. Et ensuite, nous renouvellerons si nécessaire. Et donc, à partir
de... Qui va les fabriquer et combien en avez-vous aujourd'hui?
Eh bien, nous en aurons largement suffisamment, puisque c'est entre 350 et 400 000 de ces masques dont nous disposerons. Et nous estimons, entre ceux qui sont déjà fournis et les Niçois qui ont besoin de se déplacer, à peu près à 200 000 le besoin de distribution. Et nous serons, à partir du début de la semaine prochaine, en mesure de les adresser à chacun des Niçois, où là aussi, nous aurons un mode de distribution pour leur faire porter à domicile, car pas question de leur faire prendre le risque, alors que nous exigeons qu'ils restent confinés, de sortir pour venir récupérer un masque.
D'accord, merci beaucoup Christian Estrosi. Donc à domicile à partir du début de semaine prochaine, entre autres. Hein. Voilà pour cette garantie que vous apportez ce soir, Christian Estrosi, maire de Nice. Merci beaucoup d'avoir répondu ce soir à nos questions. On va poursuivre dans une seconde.
On va préciser, Nathalie, que les villes de Cannes et de Mandelieu, elles aussi annoncent des distributions de masques à leur population. Donc voilà pour ces exemples sur la Côte d'Azur. On verra si cela donne des idées à d'autres. En attendant, le confinement reste la meilleure barrière au virus. Il a un impact majeur, ce confinement, estime le patron des hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, qui juge que ce n'est surtout pas le moment de lâcher. L'épidémie arrive à un plateau, mais elle va redescendre très lentement.
Et une nouveauté depuis ce matin qui peut nous faciliter la vie, mais qui ne doit pas non plus nous encourager à sortir plus souvent. Hein.
Oui, on peut désormais remplir son attestation de déplacement directement sur son smartphone en ligne avec un formulaire. Attention aux pièges sur Internet. Hein, vous allez bien sur le site du ministère de l'Intérieur. Et pendant ce temps se joue la bataille, bien sûr, pour trouver un traitement au Covid-19. Le docteur Jimmy Mohamed est avec nous comme chaque soir pour répondre à vos questions. Bonsoir docteur.
Bonsoir Sébastien.
Un nouvel essai clinique va commencer demain en France. Il s'agit de transfuser aux malades le plasma sanguin des personnes guéries. Expliquez-nous pourquoi ce sang des personnes guéries est-il si précieux ?
Alors, le plasma, c'est la partie liquide du sang qui contient plus d'une centaine de protéines, de l'albumine, mais aussi des immunoglobulines qui sont indispensables dans la lutte contre les agents infectieux. Et l'idée, c'est de s'intéresser justement à ce plasma chez des malades qui ont eu le coronavirus, qui ont guéri, qui ont survécu et qui ont donc fabriqué de façon naturelle des anticorps. On va prélever le plasma qu'on va analyser, qu'on va un peu centrifuger et qu'on va réinjecter à des malades qui auront développé le coronavirus pour voir si ces malades-là font des formes moins sévères, s'ils tolèrent bien ce plasma. Et ça pourrait être une des pistes, notamment pour les malades les plus graves qui sont en réanimation, qui ont un syndrome de détresse respiratoire aiguë, car à ce stade, nous n'avons aucun traitement curatif. L'espoir d'un médicament s'éloigne petit à petit, même si effectivement il faut être optimiste. Le vaccin, c'est pas pour tout de suite. Donc peut-être que cette idée de plasma chez des malades qui ont guéri pourrait être une piste extraordinaire.
À voir, donc on garde espoir et on y revient certainement avec vous. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, vous venez de nous éclairer chaque soir. Vous pouvez tous poser vos questions en 3921 ou sur le hashtag Radio Ouvert. Docteur, on vous retrouve pour son rendez-vous tous les jours à 15h. C'est avec Mélanie Gomez.
Europe 1. Votre grand journal du soir, la suite, c'est dans un instant avec vous, Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
À suivre, le montant du ticket de caisse qui s'envole hein, au supermarché. La grande distribution annonce gelé certains de ses prix.
Et puis l'espoir d'un ralentissement de la contagion en Espagne. On sera à Barcelone.
2 heures d'infos pour écouter le monde changer. C'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe.
Europe 1, radio ouverte.
Hashtag radio ouverte, c'est un vrai besoin d'être ensemble.
Mathieu Noël depuis son salon, c'est l'équipe sauvage.
Vous êtes le roi de la télé, mais vous êtes aussi le roi des hypochondriaques, Michel. Est-ce que vous tenez le coup en ce moment psychologiquement ?
Ah bah j'ai mes gants.
J'entends des petites personnes derrière toi. Oh, t'as des enfants ?
Oui, elle est dans le piège, mais on l'entend bien.
Mais c'est bien, elle a de la voix, elle sera chanteuse.
En direct de chez lui, confiné à Miami. Bonjour Booba.
Salut Mathieu.
Merci beaucoup d'avoir choisi Europe 1 ce matin pour nous
Merci
parler de votre mobilisation sur les réseaux sociaux.
Europe 1, un seul numéro, 3921, 50 centimes la minute. Et sur tous nos réseaux sociaux avec le hashtag Radio Ouverte. Leclerc.
Aujourd'hui, plus que jamais, nous défendons votre pouvoir d'achat. Depuis le début et jusqu'au terme du confinement, Leclerc s'engage à bloquer le prix de plus de 4000 produits marque repère parce que c'est important de pouvoir accéder chaque jour à une alimentation de qualité. On a tous un rôle à jouer. Vous pouvez compter sur nous.
Leclerc.
Voir liste disponible sur www.e.leclerc.
Il y en a certains à la boîte qui persistent à penser que ton bilan est globalement positif. T'en penses quoi ? Faudrait d'abord quand même évaluer le champ de tout ce que t'as compromis, ce que t'as livré à la CIA, ce que t'as livré aux Russes. Je ne te fais pas l'affront de penser que t'as aussi pu collaborer avec Daesh. De se poser des questions.
Malotru, a-t-il fini par payer le prix de ses trahisons ? Pour le savoir, retrouvez la saison 5 du Bureau des Légendes, dès ce soir seulement sur Canal+.
Régalez-vous avec l'agneau français.
Si je vous dis Pâques,
vous pensez naturellement à l'agneau français, à sa viande tendre et parfumée. L'agneau, c'est si facile à préparer. Tranches marinées, tagines d'agneau citron confit, gigots d'agneau au four. Il y a tant de façons simples de savourer l'agneau, ça change le quotidien et ça fait du bien. Et c'est bon pour nos éleveurs français. Rendez-vous sur laviande.fr pour faire le plein d'idées recettes.
Avec l'agneau français, régalez-vous.
18h12 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
On vit à la maison, on déjeune, on dîne, on cuisine, souvent, on est en famille. On n'a jamais autant fait de courses, Sébastien.
Et il en faut des produits pour faire tous ces repas et le montant du ticket de caisse est en train de s'envoler. Plusieurs chiffres le montrent. Le panier moyen, par exemple, a augmenté de 89% rien que la semaine dernière, au point que plusieurs enseignes de la grande distribution annoncent des gestes pour le pouvoir d'achat. Emmanuel Duteil.
Oui, pour tenter de limiter la hausse des prix, la plupart des grands distributeurs bloquent les prix d'une partie de leurs produits. C'est le cas chez Leclerc qui bloque les prix de sa marque Repère. Intermarché bloque les prix sur 10 000 produits. Et Carrefour a annoncé ce matin garantir les prix les plus bas du marché sur 500 produits quotidiens de grandes marques. Alors il y a bien évidemment derrière tout cela une bataille de communication pour faire venir les clients. Mais c'est aussi le signe que la question du pouvoir d'achat commence à inquiéter. Il faut dire que le passage en caisse fait peur. Nos chariots sont remplis. C'est une des raisons de la hausse des prix. On fait de plus en plus de gros pleins car on y va moins souvent. Et puis, comme vous le rappeliez Sébastien, on fait aussi tout simplement plus de repas à la maison. On va aussi plus dans les supermarchés de proximité. Dans les grandes villes, les prix y sont un peu plus élevés que dans les hypermarchés. Il y a aussi des ruptures sur certains produits. Du coup, on est obligé de prendre le produit de marque qui est plus cher. Et puis sur certains produits, il y a clairement une augmentation en raison des difficultés de production.
Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. On va vous retrouver d'ailleurs dans 15 minutes pour les grandes voix. On parlera aussi de la Grande-Bretagne avec le correspondant du Guardian, John Elney, alors que le Premier ministre Boris Johnson est hospitalisé, vous le savez, depuis hier soir.
Oui, hospitalisé, mais toujours aux commandes, a bien fait savoir son entourage. Il a bon moral et a passé une nuit tranquille, dit-on, à Londres. Officiellement, il ne s'agit pas que de faire des tests alors qu'il subit maintenant les symptômes du Covid-19. Depuis 10 jours, la Grande-Bretagne qui dépasse désormais les 5000 morts. En Italie, la mortalité est repartie à la hausse aujourd'hui également. Mais en Espagne, Henri de Laguerre, vous êtes vous à Barcelone. En Espagne, le nombre de morts baisse quotidiennement depuis maintenant 4 jours. Est-ce que cela donne de l'espoir là-bas ?
Oui, effectivement, car ça y est, la tendance se consolide. L'épidémie ralentit en Espagne. Dans les dernières 24 heures, 637 personnes sont décédées. C'est énorme, mais c'est le chiffre le plus bas depuis le 24 mars. Et ce changement est palpable dans certains hôpitaux. Des lits sont désormais libres à l'hôpital d'Igualada, c'est près de Barcelone. C'était l'un des clusters de l'épidémie. À Leganés, dans la banlieue de Madrid, les urgences reviennent à la normale. Félix Del Ojo, urgentiste à Almeria, en Andalousie, constate lui aussi une amélioration.
En effet, il y a une amélioration assez importante. Le premier service qui commence à être moins congestionné, c'est le service d'urgence. Voilà, on peut dire que l'Espagne est sur la bonne voie, mais ce n'est pas le moment de sortir tous dans la rue et enlever les mesures. Bien au contraire, il faut un tout petit peu plus de patience, espérant que nous continuerons sur cette bonne voie de manière à vaincre finalement la situation.
Rappelons qu'ici, le confinement est total alors que les congés de la Semaine Sainte ont commencé. L'état d'urgence a été prolongé jusqu'au 26 avril, mais l'économie pourrait redémarrer dans 8 jours.
Henri de Laguerre, correspondant d'Europe 1 en ligne depuis l'Espagne, où le bilan a dépassé les 13 000 morts. Et puis, il y a des signes bien plus encourageants encore ailleurs en Europe. Là, c'est en Autriche, cette fois, pays très peu touché. Et là, c'est le déconfinement qui est annoncé. Oui, déjà, pour le 14 avril, mardi prochain, réouverture des petits commerces, mais remise en marche très progressive. Sur plusieurs mois, les restaurants n'ouvriront pas avant la mi-mai. Les grands rassemblements publics restent interdits jusqu'à fin juin.
Et on s'arrêtera à 19h sur la situation outre-Atlantique aux États-Unis où la progression de l'épidémie là-bas est fulgurante. Les autorités préparent l'opinion à une semaine terrible, apocalyptique, déjà comparée à Pearl Harbor ou au 11 septembre 2001.
Oui, discours très pessimiste aussi sur l'impact économique de cette crise. La France devrait connaître en 2020 sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà ce qu'a prédit aujourd'hui Bruno Le Maire. Le PIB reculerait de plus de 2%. Demain, une réunion cruciale est prévue entre tous les ministres des finances de l'ensemble de la zone euro.
Et l'économie justement mise à l'arrêt qui provoque un bras de fer dans le monde également du ballon rond du football.
Incertitude totale sur la poursuite ou non du championnat de Ligue 1 qui est complètement arrêté, ce qui met les clubs dans une situation économique assez compliquée, d'autant que les diffuseurs, les chaînes de télévision ont arrêté de payer les droits. Cyril de la Morinerie, c'est une bataille de gros sous hein, en perspective. Le patron de Canal+, Maxime Sada, était sur Europe 1 ce matin et il assume complètement de ne plus payer.
Oui, le patron de Canal+ coupe le robinet. Maxime Sada n'a pas réglé l'avant-dernière échéance du contrat, soit 110 millions d'euros. Le dirigeant de la chaîne cryptée ne veut pas payer alors qu'il n'a aucun match à proposer à ses abonnés, comme il l'explique dans Village Média. C'était ce matin au micro de Philippe Vandel.
Nous, on n'est pas une banque. Ma responsabilité, c'est d'assurer la pérennité du groupe Canal. On n'a pas à assurer la trésorerie des clubs de foot français. On applique un contrat, on applique la loi en réalité. C'est assez simple. C'est quand on n'est pas livré, on ne paye pas.
Par ailleurs, la Ligue estime que Canal n'a pas payé pour l'ensemble des matchs déjà diffusés. Elle rappelle que les trois quarts du championnat se sont écoulés. Or, la chaîne cryptée n'aurait réglé que les deux tiers de la facture, soit un arriéré de 40 millions d'euros. Mais là aussi, Maxime Sada s'est montré intransigeant.
D'abord, le calcul est faux. Il y a des matchs qui ont été reportés, qui sont comptabilisés parce qu'ils comptent les journées dans leur totalité. Mais on ne va pas faire du calcul d'apothicaire. En plus d'être faux, encore une fois, ce calcul n'est pas pertinent puisqu'il n'est pas dans le contrat.
Alors pour mener ce bras de fer, la Ligue a missionné quatre présidents, dont celui du Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaifi est en première ligne. C'est lui qui doit mener les discussions avec beIN et Canal. Il reste encore 260 millions d'euros de droits à payer cette saison. Mais les négociations s'annoncent compliquées, en particulier avec Canal. L'an dernier, en pleine crise des Gilets jaunes, la Ligue avait décalé des matchs en pleine semaine sans consulter le diffuseur. Canal, partenaire historique de la Ligue depuis 35 ans, est également vexé des honneurs réservés à Mediapro, le grand vainqueur du dernier appel d'offres.
La grosse bataille de sous dans le foot, Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Et pendant ce temps, situation complètement différente là chez nos voisins allemands. Là-bas aussi, le championnat est suspendu, mais le Bayern Munich a repris l'entraînement aujourd'hui par petits groupes et en respectant des règles d'hygiène et évidemment sans public.
Voilà, exactement.